l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Cahors, 92.5.
Merci d'être avec nous, il est midi, très heureux de vous retrouver pour ce Présence Midi en direct avec toute l'équipe de Présence Midi réunie autour d'Anne-Rose Jankovic. Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles, ça se bouscule en studio, on est voilà. Tellement nombreux.
Voilà, pour rien vous cacher, vous êtes entouré de viennoiseries.
C'est vrai, voilà. Et ça sent bon.
C'est vrai, voilà, on a eu la chance ce matin d'avoir des viennoiseries, donc autant le dire, bien. Justement, de gourmandise, il en sera question dans cette émission à midi et demi, direction Vic-en-Bigorre, c'est dans le nord du département des Hautes-Pyrénées, avec les tablés de Vic.
Les tablés de Vic du 25 au 28 juin prochain au hall de Vic-en-Bigorre, c'est la 11e édition de ce festival qui est à la fois gastronomique et populaire. Nous en parlerons après le journal régional avec la directrice de la communication de cet événement.
Direction également Tournai dans cette émission.
Oui, puisque samedi, vous êtes invité à lire sur les bords de la Rosse, au pied de l'abbaye Notre-Dame de Tournai. Samedi, je lis à l'abbaye. C'est ce samedi 6 juin et dans quelques minutes, le frère Martin, le frère libraire de l'abbaye bénédictine de Tournai, nous racontera ce qui se passera exactement ce 6 juin.
Autre événement à ne pas manquer, ce sont les transhumances. On va en parler dans un instant puisque du côté de la Vallée d'Or vendredi soir, eh bien, c'est la transhumance à Saillant. Ça sera dans le cadre de l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes dans quelques instants hein, avec vous.
Exactement, les transhumances, c'est un rendez-vous important qui a lieu dans beaucoup de vallées, pardon. Il y a de l'agitation en studio pour le coup autour de moi. Donc les transhumances qui ont lieu en Vallée d'Or ce week-end, qui ont déjà eu lieu dans d'autres endroits le week-end dernier et puis qui se poursuivent jusqu'au 14 juin.
Pour le moment, eh bien, à 12h03, on retrouve l'essentiel de l'actualité avec les titres qui seront développés tout à l'heure à 12h30 dans le journal régional. Les titres sont présentés par Sacha Boudet-Bouplier.
Après Zaz, dans le Lot-et-Garonne, 150 manifestants se sont mobilisés ce week-end contre un projet de méthaniseur qu'ils jugent néfaste pour l'environnement et le cadre de vie. Dans le même département, à Pujol, un violent incendie a détruit un hangar agricole. Une cagnotte en ligne a été ouverte pour soutenir l'exploitante touchée par le sinistre. À Tarbes, les obsèques du général André Mengel seront célébrées demain dans la cathédrale de la Cède, en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires. Le roi de Thaïlande, Ramadis, est attendu prochainement à Toulouse, une visite qui intrigue autant qu'elle suscite la curiosité dans la ville rose. Dans le Lot, le festival opéra éclaté quittera Gramma pour s'installer à Lemme du 3 au 5 août prochain avec l'ambition de poursuivre son développement culturel. Et puis pour finir à Pamiers, près de 500 spectateurs ont applaudi la chanteuse irlandaise Caz Hawkins dont la prestation a marqué les festivaliers par son intensité et son émotion.
Merci Sacha Boudet-Bouplier, voilà, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le retrouve tout à l'heure à 12h30 pour développer ses titres dans le journal.
Présence à Super Bagnères 94.
L'agenda des diocèses, c'est tous les jours sur Radio Présence, direction le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Rebonjour Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
La période des transhumances commence en montagne et ce vendredi soir, ça va se passer dans la Vallée d'Or, dans le petit village de Saillant.
Exactement, en Vallée d'Or, il y a déjà eu des transhumances le week-end dernier, c'était à Soulan. Et là, cette fois-ci, vous êtes invités à participer, à voir ce temps qui est quand même assez important dans la vie locale. Ce vendredi 5 juin, à 17h, il y aura la bénédiction des troupeaux à Saillant. avant la montée des troupeaux dans les verts pâturages. Voilà, c'est un moment qui est ouvert à tous, puisque au-delà du moment de bénédiction, qui est un temps de prière, eh bien, c'est aussi un temps festif, un temps voilà, de convivialité qui évoque eh bien, cette tradition qui perdure et qui se transmet de génération en génération. Donc rendez-vous ce vendredi 5 juin à 17h pour ce temps de transhumance qui commence par la bénédiction des troupeaux, très important.
Exactement, on redescend en plaine avec cet événement Joli à l'Abbaye, c'est ce samedi.
Samedi, Joli à l'Abbaye, un rendez-vous auquel nous invite Frère Martin, qui est le frère libraire de l'abbaye bénédictine Notre-Dame de Tournai. Vous êtes invité à partir de 10h samedi matin et puis tout au long de la journée à profiter de tous les livres qui sont à votre disposition à la librairie de Tournai. Vous pouvez venir aussi avec un livre que vous avez déjà chez vous. En tous les cas, l'objectif, eh bien, c'est de profiter du calme du parc de l'abbaye aux abords du ruisseau, du fleuve de l'Arros, pour lire tranquille, pour échanger avec d'autres lecteurs, pourquoi pas pour pique-niquer dans le parc de l'abbaye, pour parler avec les frères, peut-être pour prier avec les frères aussi, puisque entre deux romans, eh bien, ou entre deux encycliques lues, eh bien, vous ferez bien une petite pause prière. Voilà, samedi, Joli à l'abbaye, ce samedi 6 juin, de 10h à 17h45 à peu près. Enfin, s'il fait beau, vous pouvez rester plus longtemps.
Voilà, l'abbaye de Tournai, dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Direction maintenant Tarbes avec ce dimanche, la procession du Saint-Sacrement.
Oui, puisque c'est la fête du Saint-Sacrement ce dimanche 7 juin et la paroisse de Tarbes nous invite à participer à la procession qui aura lieu dans les rues de Tarbes. Rendez-vous à 16h à l'église Sainte-Thérèse, donc en plein centre-ville de Tarbes, pour une procession en direction de l'église Saint-Jean, puis jusqu'à la cathédrale. Voilà, et après l'adoration du Saint-Sacrement, eh bien, un goûter sera offert à 17h30. Les enfants peuvent apporter un panier rempli de pétales de roses s'ils veulent participer à cette procession.
Il y a vraiment une grande diversité dans cet agenda, puisque maintenant on va parler musique et concert, avec un concert au profit de la restauration de l'église d'Aurignac.
Oui, alors Aurignac, c'est un village qui fait partie de la paroisse du pays de Bagnères de Bigorre, la paroisse Notre-Dame du Haut-Adour. Vous savez que depuis des années, eh bien, les habitants sont mobilisés pour la restauration de leur église, après de très nombreux gros travaux, gros chantiers pour mettre l'édifice hors air, hors eau, comme on dit. Eh bien, la restauration continue avec cette fois-ci une restauration à l'intérieur de l'édifice qui doit se poursuivre, et pour soutenir ces travaux et cette nouvelle tranche de travaux, eh bien, la saison des concerts reprend avec ce dimanche 14 juin à 16h30 un duo, trio et quatuor lyrique, voilà, pour un opéra et une comédie musicale qui nous attend. Donc 16h30 le dimanche 14 juin, vous passerez un bon moment de grande qualité et en plus vous pourrez soutenir donc la restauration de cette magnifique église.
On poursuit cet agenda direction Bagnères de Bigorre avec cette soirée Carlo Acutis qui est proposée.
Le samedi 13 juin à partir de 20h30 en l'église Saint-Vincent à Bagnères de Bigorre, le père Jean-Baptiste, qui est chanoine de l'abbaye de la Grâce, qui viendra nous parler donc de Carlo Acutis, un saint pour notre temps, avec des reliques secondaires de Saint Carlo Acutis.
On termine cet agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes avec cette veillée scout qui est programmée le 13 juin à la Maison Saint-Paul.
Oui, c'est la patrouille de la Panthère de la compagnie 2e Tarbes, les guides qui nous invitent donc à cette veillée scout sur le thème de Narnia. Voilà, on part dans un univers tout à fait original. Ce samedi 13 juin à 20h30, ça se passera en la maison diocésaine, la Maison Saint-Paul à Tarbes. Et l'objectif, eh bien, c'est de les aider à financer le camp qu'elles feront cet été en Espagne. Donc après cette veillée scout, eh bien, il y aura une vente de gâteaux. Voilà, donc c'est ouvert à tous et vous pouvez encourager ces jeunes filles pour qu'elles puissent vivre pleinement leur camp d'été.
Voilà, un aperçu de l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes, la suite et l'actualité du diocèse. Et bien, on peut retrouver tout ça sur le site internet et sur l'application Au Clocher.
Exactement. Voilà. Vous savez tout, Gilles.
Pratiquement.
Vous suivez bien l'actualité du diocèse de Tarbes et Lourdes. Je vous félicite.
Est-ce qu'il y a un bulletin diocésain en préparation?
Il y a un gros bulletin diocésain en préparation qui sera dédié à la pastorale du tourisme. Il va faire un certain nombre de pages, puisque dans les paroisses, eh bien, il y a de très nombreuses personnes qui se mobilisent tout l'été pour proposer plein d'initiatives, des visites d'église, des concerts, des temps de rencontres et même des apéros après la messe. Donc tout cela sera raconté dans le bulletin diocésain qui est en préparation et qui sera distribué d'ici 3 semaines. À peu près.
Voilà, et on en parlera juste avant sur Radio Présence en exclusivité.
On va en parler juste avant sur Radio Présence en exclusivité, puis on en parlera tout l'été. Et à la fin de l'été, vous en aurez marre.
Je ne sais pas, c'est pas sûr. Allez, un grand merci. Voilà, merci pour l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. Merci Anne-Rose Jankovic.
libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. E vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore.
E in un mondo che liscio nero è, libre respiravamo tu e io, però la verità chiara brilla.
Saint-Aventin, 94.
La suite de cette émission, c'est avec vous, Anne-Rose Jankovic, à vos côtés, votre invité.
Et un invité surprise en studio, je suis ravie d'accueillir Frère Charles. Bonjour Frère Charles.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes franciscain du Bronx, franciscain du renouveau aussi, on peut dire les deux, hein, n'est-ce pas?
C'est exact. Notre nom officiel, c'est franciscain du renouveau.
Vous étiez venu nous voir il y a quelques semaines, quelques mois, on peut dire, pour nous parler de votre vie, de votre vocation. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un événement retraite discernement qui aura lieu du 19 au 21 juin prochain à Lourdes. Qu'est-ce que c'est que cet événement ?
Alors, en fait, c'est une retraite pour des jeunes hommes de 18 et plus, pour réapprendre ou apprendre à écouter la voix du Père. Si notre nom c'est Frères Franciscains du Renouveau, c'est en fait on cherche à se renouveler dans notre relation au Père, donc essayer d'être à son écoute pour comprendre quel est son désir pour notre vie.
Ces jeunes hommes que vous invitez donc à cette retraite discernement, ce sont des personnes, des jeunes que vous avez invités parce que vous savez qu'ils se posent peut-être la question de la vocation religieuse, ou c'est vraiment ouvert à tout profil ?
C'est ouvert à tout profil. On a dit de discernement, mais discerner, on peut discerner plein de choses. Donc c'est pas spécifiquement pour discerner une vocation religieuse. Même pas spécifiquement une relation religieuse chez nous. Non, c'est simplement à réapprendre à être à l'écoute et à reconnaître la voix du Père.
Pourquoi vous proposez cette retraite discernement ? J'imagine que si vous avez fait cette proposition, c'est que vous êtes parti d'un constat, d'un besoin peut-être, ou que vous avez des témoignages de jeunes hommes qui ont des difficultés à discerner précisément.
Oui, on a beaucoup de jeunes qui nous posent la question, qui découvrent ou redécouvrent la foi. Et il se trouve aussi que c'est le 800e anniversaire de la mort de Saint François, donc c'est une année jubilaire pour les franciscains. Et donc c'est une année où qui est idéal pour inviter les gens à se mettre à l'école de Saint-François, qui, en fait, a plein d'exemples. Il nous montre comment il a entendu la voix du Père et comment il s'est mis en chemin pour devenir le très grand saint qu'il est.
C'est quoi l'école, se mettre à l'école de Saint-François d'Assise, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que vous allez proposer du 19 au 21 juin pour être concrètement à l'école de Saint-François d'Assise?
Déjà comprendre en regardant l'histoire de Saint-François, comprendre comment il a entendu la voix du Père, comment il est devenu du roi de la fête d'Assise au très grand saint, mais qui est bien connu pour, parler aux animaux, mais aussi pour une forme d'austérité, mais aussi une grande fraternité. Il était accessible à tout le monde. Enfin,
Mais il faut quand même se retirer du monde, un petit peu.
Et voilà, François avait les deux, en fait. Il restait en tension entre être à l'écoute du Père et aller à la rencontre des frères.
Alors, il y a 800 ans, c'était peut-être plus simple qu'aujourd'hui. Ces hommes qui vont participer à cette retraite discernement, comment vous les motivez pour qu'ils se coupent du monde? Est-ce que c'est une retraite en silence? Est-ce qu'il faut éteindre le portable?
Alors, oui, on va essayer, parce que c'est plus facile, du coup, d'écouter. Mais en fait, certes, il y a 800 ans, mais il y a beaucoup de similarités entre l'époque de Saint-François, qui était un moment de changement de civilisation, et où la structure de la société de l'époque était complètement, radicalement chamboulée, et a ouvert sur la Renaissance, et avec une dynamique totalement différente.
Et les facteurs qui chamboulaient la société à cette époque-là n'étaient pas plus simples à adopter que les facteurs qui chamboulent notre société aujourd'hui ?
Non. Et en fait, c'était une société qui était très morcelée, très divisée, avec chaque casque qui était très isolé. Et justement, cet appel à la fraternité était très important pour François. C'est pour ça qu'il a eu un tel impact sur l'Église. Et aujourd'hui, justement, il y a ce besoin de fraternité, il y a ce besoin de lien. Même si on a beaucoup plus de moyens de communication, on se rend compte que les gens sont de plus en plus isolés. Et donc voilà, quand on est isolé, ça veut dire qu'on n'arrive plus à entendre l'autre et à se faire entendre.
Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour les participants à cette retraite?
Eh bien, les participants, on prendra du temps en recul et on invite les participants à vivre notre vie de prière déjà.
Donc la liturgie des heures?
La liturgie des heures avec une heure d'adoration par jour, etc. Il y aura des enseignements concrets en prenant l'exemple sur Saint-François pour voir comment il a entendu la voix du Père, et comprendre aussi comment on fonctionne en tant qu'être humain. Donc, voir un petit peu tout ça. Et ensuite, des moments de mise en application. Donc, des moments individuels de silence, de prière, de contemplation, pour justement entendre la voix du Père et se familiariser avec le son de sa voix.
Donc il y a un enjeu à la fois très, très personnel, presque même intime dans sa relation à Dieu, puis un enjeu peut-être plus communautaire ou fraternel en tous les cas.
Tout à fait. Les deux dynamiques sont ensemble. Effectivement, c'est très personnel et très intime, mais en même temps, on le fait ensemble, on s'encourage les uns les autres. Et c'est aussi pour ça qu'on a demandé aux jeunes hommes, parce que, pour qu'il y ait une dynamique, on fonctionne pas forcément toujours pareil, les hommes et les femmes. Et donc, peut-être qu'on proposera plus tard pour les jeunes femmes. Je sais pas encore, le calendrier un peu... Mais pour le moment, c'est pour aider justement à cette fraternité et à cette communion.
Vous attendez combien de retraitants? Il y a un nombre idéal ou un seuil à pas dépasser pour que ça colle?
Alors, on vise 10, je crois qu'on peut aller jusqu'à 15. Et je crois que pour le moment, on a encore 5 places pour atteindre nos 10. Donc
il reste un peu de place, mais il faut se dépêcher quand même.
Exactement.
Voilà. Merci beaucoup, frère Charles. Vous nous parliez aujourd'hui donc, de retraite discernement pour les hommes de plus de 18 ans. Ça se passe du 19 au 21 juin prochain à Lourdes. Il s'agit de prendre un temps pour entendre la voix du Père en suivant la vie de Saint François d'Assise. C'est organisé par les franciscains du Renouveau, dont vous êtes exactement, frère Charles. Et puis, Spiritus Event. Et pour s'inscrire, il suffit de contacter Spiritus Event, spiritus.event@gmail.com. Toutes les informations seront sur l'appli Au Clocher et j'indique que la participation est de 80 € par personne avec un paiement sur place en arrivant le 19 juin.
Exactement.
Voilà pour les infos logistiques. Merci beaucoup frère Charles. À bientôt sur Radio Présence.
Merci de m'avoir reçu. Bonne journée.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence. Il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller ? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présent ce matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Bonjour frère Martin.
Bonjour Anne-Rose.
Cette fois-ci, vous ne venez pas nous parler, nous présenter un livre, mais vous venez nous parler d'un événement culturel lié à la lecture. Samedi, je lis à l'abbaye le 6 juin prochain, 6 juin 2026. Les jardins de l'abbaye Notre-Dame de Tournai s'ouvrent pour permettre au plus grand public possible de lire sur les bords de la Rosse. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire d'où est venue cette idée, frère Martin ?
C'est une double idée. Elle est venue d'abord du quart d'heure de lecture nationale qui se passe au mois de mars et où souvent les conditions climatiques, parce que c'est un jour de travail en semaine, peu de gens viennent prendre un temps pour lire puisque le slogan c'est d'éteindre son portable 15 minutes et de prendre 15 minutes pour lire. Donc on a pensé qu'on pouvait faire ça à un autre moment. Et parce que j'entends au magasin ou à l'hôtellerie que les gens prennent beaucoup de plaisir, une grande joie à lire dans le jardin de l'abbaye. Donc, je me suis dit, invitons les gens pour redécouvrir la lecture, lecture religieuse, lecture d'un roman, de ce que vous avez envie de lire, et de venir prendre un temps de lecture dans un lieu plutôt calme, au bord de la rivière, et pour profiter de la joie de lire.
Voilà, c'est un cadre...
Et la partager.
Boisé, bucolique, avec cette rivière de la Rose, donc, qui traverse vraiment au pied de l'abbaye. Est-ce que derrière, il n'y a pas une envie de revenir aux racines de ce qu'étaient les abbayes autrefois, c'est-à-dire vraiment des lieux de culture, c'est aussi un petit peu ça, c'est redire que à l'abbaye Notre-Dame de Tournai, comme c'était le cas dans toutes les abbayes autrefois, on trouve de la nourriture spirituelle, mais aussi de la nourriture culturelle.
Oui, tout à fait. Les abbayes, c'était le lieu où on fabriquait les livres, où on copiait, où des artistes créaient leurs œuvres de statues, de peintures, et il y avait beaucoup de gens qui travaillaient et qui n'étaient pas moines et qui gravitaient dans une abbaye. Donc je crois qu'aujourd'hui, on peut réellement ouvrir notre lieu pour que toute personne qui veut se poser, vivre un temps calme, et aujourd'hui, un temps calme avec des enfants, souvent c'est de prendre un livre, et donc vous êtes invité à venir avec votre livre ou découvrir notre librairie et trouver une idée de lecture originale qu'on vous proposera particulièrement pour ce jour-là.
Donc ce 6 juin, de 9h jusqu'à 18h à peu près.
Alors,
ou un peu
de 9h à 18h, la librairie sera ouverte, évidemment, mais si on veut venir lire tôt, on peut venir lire, et on peut venir lire jusque tant qu'il fait jour. Simplement, c'est qu'évidemment, à partir de 18h30, la communauté est à l'office du soir, puis il y a le repas. Enfin, vers 20h, nous serons un petit peu là, mais vous pouvez venir lire dans le jardin de l'abbaye le soir si vous êtes disponible.
On investit vraiment le terrain de vie, de la vie monastique et des frères pendant toute cette journée de 9h à 18h pour pouvoir profiter du jardin et lire. Vous parlez de la librairie, frère Martin. Elle sera ouverte de 9h à 18h ce jour-là.
Presque. On fermera le temps de l'office de la prière de midi et du repas communautaire.
Alors, la publicité de cette journée du 6 juin, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'il y a à peu près 3 ans, cette librairie a pris un virage important, puisque autrefois on trouvait dans cette librairie des ouvrages principalement spirituels. Aujourd'hui, c'est vraiment une librairie à part entière. Ce virage, vous l'avez pris il y a 3 ans. Vous y travaillez beaucoup. Donc ça veut dire que ce 6 juin, le public qui viendra pourra trouver des livres spi, des textes de l'Église, du pape, etc. Mais aussi des romans,
une ouverture littéraire, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Alors, on le sait dans la chronique littéraire, les livres et les romans que vous présentez, mais est-ce qu'on a une idée du nombre d'ouvrages qu'il y a? Est-ce que vous pouvez nous donner...
Les ouvrages, je ne les compte pas, mais c'est vrai que beaucoup d'éditeurs religieux, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, sont chez des grands distributeurs de littérature générale. Donc, évidemment... il me semble important aussi, nos clients viennent pour des produits monastiques et tout le monde ne vient pas pour un livre religieux, mais donc nous sommes aussi, nous rendons le service, je dirais, de librairie de proximité depuis que nous sommes devenus une librairie indépendante.
Qu'est-ce que ça change au fond pour vous? Alors vous êtes vraiment le frère libraire, ça veut dire que tous les livres, vous les avez peut-être pas tous lus, mais vous savez de quoi il s'agit, vous pouvez donner des conseils aux personnes qui viennent, ça c'est quand même important quand vous parlez de
librairie de proximité. Oui, c'est quand même une sélection de livres ou de romans où il y a quand même une idée ou une écriture ou voilà un auteur connu quoi, voilà, beaucoup de gens par exemple lisent Eric Emmanuel Schmitt, voilà, je trouve que c'est quand même intéressant si on aime la littérature de se lancer dans la grande saga de la traversée des temps qui fera 8 tomes, et ben voilà, ça c'est quand même un livre où à travers une histoire il y a des valeurs, il y a quelque chose qui est proposé quoi.
Vous travaillez avec combien de maisons d'édition?
Oh là là, il y en a beaucoup, je suis incapable de les compter. Il y a plus de 100 ou 150 éditeurs chez les distributeurs. Donc vous voyez, il y en a 5 ou 6, donc il faut...
Alors,
très long, quoi.
Être une librairie de proximité, pour reprendre le terme que vous employez, ça veut dire que si moi je veux un roman, voilà... Ouais,
vous pouvez le commander chez nous.
On peut le commander. Si vous ne l'avez pas, vous le commandez.
Vous pouvez commander. Si c'est un éditeur qui n'est pas référencé sur un distributeur, mais là, c'est parce que c'est quelqu'un qui est indépendant et voilà...
Alors, pour en revenir à cette journée du 6 juin, les auditeurs qui ne connaissent pas la librairie auront l'occasion donc, de découvrir tout ce que vous êtes en train de nous expliquer. Là.
Voilà. Et surtout que ce jour-là, je serai là toute la journée.
Voilà, de 9h à 18h, presque. Avec la pause pour la prière du milieu du jour.
Et à 13h, on proposera pour le jeune public, comme nous avons déjà enregistré avec Radio Présence un conte au moment de Noël, oui. Eh bien, je lirai un conte à 13h. Juste après que les gens puissent pique-niquer et rentrer pour ceux qui veulent aller faire la sieste, à 13h, je lirai un conte qui demandera une quinzaine de minutes.
Donc, il ne faut pas s'inscrire, on vient spontanément, on peut venir entre amis, tout seul, en famille, avec des enfants, on a bien compris.
Puis dans le jardin, c'est plutôt un lieu où on lit, donc c'est pas le lieu pour parler. Et donc, on proposera plutôt que les gens qui ont envie de parler de leur lecture viennent le faire dans le cloître de l'hôtellerie.
Voilà,
le cloître. Pour que le jardin soit un lieu... propice à la lecture.
Donc, lire, méditer et prier.
Et prier pour ceux qui le veulent. Nous vous rappelons qu'il y a la messe à 9h du matin, qu'il y a à 12h05, il y a l'office du milieu du jour, et à 18h30, les vêpres.
Voilà.
Et 21h, les vigiles.
La communauté des frères est engagée. Alors, vous, on entend bien, hein, frère Martin, vous êtes le libraire, donc, et c'est vous qui avez eu cette idée. Mais les frères seront là aussi
Frères, évidemment, les frères qui sont en lien avec l'hôtellerie et tout ça. Et peut-être comme les frères aussi sont certains occupés, il y aura aussi des personnes qui viendront nous aider pour vous accueillir.
Quel est, au fond, l'objectif pour vous, au-delà de proposer un temps de lecture un petit peu atypique dans un cadre bucolique qui change? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens vivent et expérimentent ce jour-là?
Le goût de prendre un temps pour la lecture, quoi. Je crois que c'est ça qui est important. Il y a quelques personnes qui lisent, mais je crois que si on a un peu envie de lire, venir vivre cette expérience dans un lieu adapté, ben ça va faciliter que vous avez plus envie de lire chez vous, quoi.
Et savoir
faire une pause, c'est ça. Et donc, je crois que le lieu et notre vie, c'est peut-être ça qui va vous inviter à vivre aussi une pause pour vous, quoi.
Samedi, je lis à l'abbaye, samedi 6 juin 2026, à partir de 9h dans le jardin de l'abbaye Notre-Dame de Tournailles. Venez lire, méditer, prier aux abords de la Rosse avec ce rendez-vous à 13h de lecture de contes pour les enfants. Les enfants de quel âge?
Les enfants de 3 à 9, à 9 ans, quoi.
Voilà, un événement à la fois culturel et spirituel, c'est important de le rappeler, et on peut venir avec sa petite couverture, sa petite chaise pliante,
voilà.
son pique-nique si on veut,
voilà. Son goûter, très important.
Le goûter, voilà, très bien. Et puis il y a des pâtes de fruits, si jamais on a un petit creux, on ira chercher des pâtes de fruits.
Et des gâteaux, et des... Voilà.
Voilà. Merci beaucoup, frère Martin, on se voit le 6 juin à l'abbaye.
On se voit le 6 juin à l'abbaye. Merci à vous et à bientôt.
Et merci aussi à vous, Anne-Rose Jankovic. Après Tournailles, direction dans un instant, Vic en Bigorre, avec votre invité, on va parler des tablés de Vic.
On va parler gastronomie. Exactement. Qu'est-ce qu'on voyage et qu'est-ce qu'on mange?
Exactement, une belle émission pour le moment, place à l'actualité avec Sacha Boudet-Bouplier qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le retrouve pour le journal régional.
Bonjour à tous, à la une aujourd'hui à Perras dans le Lot-et-Garonne. La contestation ne faiblit pas contre le projet de méthaniseur porté sur la commune. Environ 150 personnes ont participé ce week-end à une marche de protestation organisée par plusieurs collectifs et riverains. Les opposants dénoncent notamment les conséquences environnementales du projet, l'augmentation du trafic routier et les nuisances potentielles pour les habitants. Les porteurs du projet mettent en avant, au contraire, la production d'énergie renouvelable et la valorisation des déchets agricoles, un dossier qui continue de diviser le territoire. Dans le même département, à Pujol, un important incendie a détruit un hangar agricole. Le feu s'est déclaré dimanche et a rapidement embrasé le bâtiment malgré l'intervention des sapeurs-pompiers. Les dégâts sont considérables pour l'exploitante agricole qui a perdu une partie de son matériel et de ses stocks. Face à cette situation, une cagnotte en ligne a été lancée afin de lui venir en aide et de permettre à l'exploitation de poursuivre son activité. Direction maintenant Toulouse, où une visite peu commune suscite déjà la curiosité. Le roi de Thaïlande, Rama X, doit prochainement séjourner dans la ville rose. Âgé de 73 ans, le souverain thaïlandais est l'une des personnalités les plus influentes d'Asie du Sud-Est. Son passage à Toulouse attire l'attention en raison de sa réputation singulière et du mystère qui entoure souvent ses déplacements à l'étranger. Dans le Lot, le festival Opéra Éclate et Toujours tourne une page de son histoire. Après plusieurs années organisées à Gramma, les représentations se dérouleront désormais à Lem du 3 au 5 août prochain. Les organisateurs espèrent profiter de ce nouveau cadre pour poursuivre le développement de cet événement qui continue chaque été à rendre l'opéra accessible au plus grand nombre. Et puis pour finir en culture, la chanteuse irlandaise Caz Hawkins a marqué les esprits ce week-end à Pamiers. Devant près de 500 spectateurs, la chanteuse a livré une prestation saluée pour son émotion et la richesse de son interprétation. Un concert particulièrement apprécié du public ariégeois qui restera comme l'un des temps forts de cette édition du festival.
Voilà, merci à Sacha Boudet-Pouplier, voilà, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Voilà pour l'actu régionale. L'info est de retour dans moins d'une demi-heure à 13h avec l'actualité nationale et internationale.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Et la suite de cette émission, c'est avec vous, André Jankovic, et votre invité.
Oui, on va parler des Tablées de Vic, un rendez-vous qui aura lieu du 25 au 28 juin au Hall de Vic en Bigorre. C'est la 11e édition de ce festival qui est à la fois gastronomique et populaire. Et oui, c'est possible. Et nous en parlons avec Virginie Dubertrand, responsable communication du festival. Bonjour à vous, Virginie Dubertrand.
Oui, bonjour.
Est-ce que c'est juste de présenter les choses ainsi, de dire que les Tablées de Vic sont à la fois un événement gastronomique et populaire? C'est ça votre objectif pour ce rendez-vous?
C'est exactement notre objectif, c'est de rapprocher les gens de la gastronomie dans une ambiance conviviale.
Pourquoi ça se passe à Vic-en-Bigorre? Alors pour les auditeurs qui nous écoutent au-delà des Hautes-Pyrénées, hein, Vic-en-Bigorre c'est au nord du département des Hautes-Pyrénées, à un peu moins de 20 km de Tarbes, c'est la porte d'entrée du Val d'Adour, le Madiran est un peu plus au nord. Pourquoi ce festival a démarré il y a 11 ans à Vic-en-Bigorre et pourquoi c'était le bon lieu pour ce rendez-vous?
Alors c'est le bon lieu parce que comme vous venez de le rappeler, on est très bien situé, on est près du Béarn, on est dans le Val d'Adour, on est pas loin du Gers, on est dans les Hautes-Pyrénées. C'est vraiment un endroit décroisé des chemins. L'idée c'est que nous on travaille beaucoup sur notre territoire. On veut mettre en avant le fait qu'on soit ville gourmande, qu'on a un cadre authentique, qu'on est au cœur des Pyrénées et que vraiment on est un endroit à taille humaine pour sa convivialité et tout en mettant en avant le cœur sud-ouest.
Alors on peut dire quand même qu'on mange bien partout en Bigorre et même partout en Occitanie quand même.
Heureusement, oui, on est un département, une région où on a la chance de vivre.
Comment ça va se dérouler exactement ce festival, hein, du 25 au 28 juin? Quel public attendez-vous et au fond, quelle est la proposition que vous faites à ces festivaliers qui sont quelques centaines, voire peut-être même quelques milliers?
Oui, on est à plus de 3000 festivaliers au total. Alors, le festival, il se déroule en plusieurs temps. Donc, nous, c'est du 25 au 28 juin. Le jeudi, c'est un dîner pour une petite quarantaine de personnes avec trois chefs et un accord mets et vins avec les châteaux Montus et Buscassé qui vont préparer un dîner donc en six temps avec des chefs du département et d'un peu plus loin. Mmh. Le vendredi et samedi, Là, on pourra accueillir jusqu'à 900 festivaliers avec 8 chefs qui seront présents et qui prépareront un dîner en 6 temps. Et le dimanche, on part plutôt sur une ambiance pique-nique guinguette au parc naturel de la ville. Et là, on attend au minimum 200 personnes avec des portions de producteurs.
C'est la 11e édition de ce festival. Au fil des années, est-ce que votre proposition a évolué et est-ce que le public a changé? Les gens viennent d'où?
Alors, ça a évolué, oui, parce que comme vous l'avez rappelé, c'est la 11e édition. On a évolué de propositions un petit peu pour s'adapter à la demande et à ce que les gens apprécient. On a évolué sur le nombre de chefs, on a évolué sur le nombre de festivaliers qu'on peut accueillir. Le public attendu, ben, on est très heureux de dire qu'en fait, il y a 50% des festivaliers qui sont hors département. Donc, on a beaucoup de Toulousains, on a beaucoup de Bordelais, mais aussi, très étonnant et on en est ravis, des Parisiens qui viennent nous rejoindre pour le festival.
Qui viennent exprès de Paris, qui viennent à Vic-en-Bigorre pour le festival,
oui,
l'État Bédric.
Oui, c'est ça, qui viennent. Alors, je pense qu'il y a évidemment pour le festival, mais aussi pour la localisation et pour venir passer quelques jours de vacances sur le territoire.
Oui, parce qu'on imagine c'est un tout. Ils ne viennent pas que déguster. Il y a une ambiance qui attire probablement aussi.
Oui, c'est ça exactement. On a la chance d'avoir construit un festival qui a son attrait de gastronomie parce qu'il y a quand même beaucoup de chefs, il y a des chefs étoilés, il y a des chefs médiatiques, mais c'est aussi une ambiance populaire et conviviale à laquelle on tient énormément. Et je pense que les gens se servent entre guillemets de prétexte pour venir au festival et pour pouvoir visiter la région et le département.
Est-ce que pour les enfants, il y a une place? Alors, on parle de gastronomie, on se dit qu'a priori, les enfants vont pas trop faire la différence et que peut-être ça vaut pas le coup de leur faire une place dans ce festival, mais est-ce que ça, c'est votre point de vue?
Pas exactement. Non, les enfants sont aussi importants pour nous. On sait très bien que les parents viennent avec les enfants, donc il était important pour nous de mettre un petit accent sur ça. Donc cette année, ils auront la possibilité de faire leur propre sandwich, leur propre tacos avec une personne qui les aidera à choisir leurs ingrédients. C'est eux qui vont mettre la main à la pâte. On leur mettra des jolis tabliers et des toques et c'est eux qui vont s'occuper de faire leur menu. Pour nous, c'est aussi important qu'ils soient conscients de ce qu'ils mangent, des choix qu'ils peuvent faire parce que c'est les futurs consommateurs de demain.
Ah oui, donc il y a aussi un objectif éducatif, pédagogique, ludique.
Oui, exactement, de sensibilisation. Il faut toujours que ça reste ludique pour les enfants. L'idée, c'est que ça ne soit pas une contrainte, mais il faut qu'ils soient conscients de ce qu'ils mangent. Et voilà, si les parents font le choix de venir au festival, c'est qu'ils ont un attrait pour la convivialité, mais aussi pour le bien manger, la gastronomie. Et on se dit qu'il n'est jamais assez tôt pour leur mettre les mains dedans.
Alors, qui dit repas gastronomique dit chef étoilé. Vous avez plusieurs chefs qui vont concocter de bons petits plats pour tous les festivaliers. Qui sont ces chefs et qu'est-ce qu'ils vont nous proposer?
Alors, on a la chance cette année de recevoir 19 chefs. Les chefs viennent de partout en France, que ce soit de Bretagne, de Toulouse, de Bordeaux. On aura des chefs étoilés. On aura notamment Quentin Pélestor-Verrier, qui vient d'avoir cette année une étoile au Guide Michelin, qui a été élu jeune espoir de la gastronomie. On aura aussi Julien Rasemont, qui a une étoile aussi dans le Gers. Et on a aussi la chance d'avoir Noémie Cadré, qui est de Rennes et qui était une participante à Top Chef de l'année dernière.
C'est marrant
ça,
parce que
ça contribue à notre grande fierté.
Habituellement, les chefs cuisiniers, on les connaît pas forcément. Et puis, de plus en plus, on a l'impression qu'ils deviennent quand même un petit peu des stars, quoi. On aime bien connaître les grands chefs cuistots, quand même.
Oui, je pense que c'est une chose qui a évolué depuis un certain nombre d'années. On commence à savoir qui se cache derrière les cuisines. Et c'est vraiment une bonne chose de savoir l'ampleur du travail qu'ils établissent chaque jour. Il y a eu la médiatisation grâce à des émissions de cuisine, mais aussi c'est bien que les gens, quand ils s'assoient au restaurant, se rendent compte de qui est là. Et la relation peut être un peu distanciée parce qu'il y a tout le service et tout ça. Et donc c'est bien qu'ils viennent au festival pour rencontrer les chefs qui rencontrent en direct sur le stand.
Et les chefs sont disponibles pendant le festival? Enfin, on imagine qu'ils sont quand même dans le tourbillon du travail à faire, hein, parce qu'il faut bien qu'ils nourrissent ces milliers de festivaliers. Mais est-ce qu'ils se rendent disponibles au public pour répondre aux questions, pour casser un petit peu cette distance, comme vous dites?
Exactement, c'est vraiment le but du festival, c'est-à-dire que chaque festivalier est invité à se rendre au stand pour récupérer une des portions du menu, et c'est le chef directement qui l'aura préparé et qui échange contre un petit ticket. Et l'idée, voilà, c'est de créer un moment de rencontre, un moment de discussion. Alors évidemment, on ne peut pas dire qu'il a pu discuter avec les 900 festivaliers pour chaque portion, mais il y a toujours un moment d'échange où voilà, on le voit travailler, on voit la portion se construire, qu'on vient récupérer, et c'est toujours un moment qui est très agréable pour le festivalier, mais aussi pour le chef qui voit en direct le client final de son travail.
Oui, et puis 19 chefs, ça veut dire venus d'un petit peu partout en France, c'est-à-dire que chacun vient avec son style, sa patte, si je puis dire.
Sa cuisine, exactement. Voilà, avec ses produits fétiches, avec une portion qui est créée de temps en temps pour le festival. Voilà, je repars sur Noémie Cadré, qui est une spécialiste de la cuisson au barbecue, qui samedi nous fera quelque chose qui sera préparé sur le bras zéro en direct pendant le festival.
Vous nous faites rêver. Alors, chef cuisinier, chef étoilé, et puis parrain aussi, puisque chaque année, les tablées de vie comptent un parrain. Cette année, c'est le pâtissier Jean-François Feuillette qui sera donc parrain de cette édition 2026. Pourquoi lui ?
Oui, exactement. Ça sera donc Jean-François Feuillette qui sera là, qui sera présent sur le samedi et dimanche. Pourquoi lui ? Parce que c'est quelqu'un qui a une très bonne formation de pâtissier, qui sait vraiment de quoi il parle sur la qualité des produits. Il ouvre de plus en plus de pâtisseries en France. Il en a plus d'une centaine. Il est en train de s'expatrier à l'étranger. On trouvait que c'était un bon représentant pour montrer la vivacité de la profession. On aura aussi sur le vendredi un chef particulier invité qui nous fera une masterclass et qui sera là le vendredi soir. C'est Oscar Garcia qui nous fera le plaisir de venir pour une énième fois sur le festival.
Voilà, c'est bien de savoir qu'on ne mange pas que de la charcuterie en Occitanie aussi.
Non, du tout. On est très gâtés.
Alors, vous nous avez parlé de menus au fil des jours. Alors, de 62 euros le jeudi, à 36 euros, ça c'est les menus pour le vendredi et le samedi. Et puis, le pique-nique, je crois que c'est autour de 20 euros, un peu plus de 20 euros. 22 euros. Donc, ce sont des prix accessibles pour des repas gastronomiques, mais c'est quand même un festival auquel on ne vient pas seul. On vient en famille, on vient entre amis. Enfin, tout ça, c'est un coût dans la conjoncture actuelle, avec en plus le coût du carburant hein, pour les festivaliers qui viennent de loin. Vous misez cette année encore sur la bonne participation du public. Comment vous expliquez que dans ce contexte économique, justement, eh bien, quand il faut faire un choix de dépenses, eh bien, le public fasse le choix de la bonne bouffe? C'est quand même pas si évident, et puis ils sont pas tous experts en gastronomie.
Je pense que la question et la réponse, vous venez de la dire, en fait, je crois que malgré la conjoncture, la chose qui rassemble, c'est le bien manger, c'est le moment convivial, et ça, les gens sont prêts à faire encore un effort pour ça, et je pense que notre festival y répond complètement. Oui, il faut faire un effort, les gens se déplacent et on en est vraiment chanceux, on en est ravis, et je pense que voilà, le moment que les gens choisissent par-dessus tout, c'est de passer un moment avec sa famille, avec son conjoint, pour passer un moment convivial. Et alors, on sait que les 36 euros peuvent être quand même un budget, mais ce qu'il faut être conscient, c'est que ce menu qui est proposé sur le vendredi et le samedi, notamment si on va le chercher dans un restaurant, clairement, il sera au-delà du 100 euros. Voilà. Nous, on travaille beaucoup sur l'accessibilité du prix. Le rapport qualité-prix, il est très important. Et je pense que les gens, s'ils reviennent, c'est aussi pour ça.
Les tablées de Vic, ça se passe à Vic-en-Bigorre, au hall de Vic-en-Bigorre, du 25 au 28 juin prochain. C'est la 11e édition de ce festival. Il reste quelques places, je pense, mais c'est maintenant qu'il faut s'inscrire, puisqu'il faut réserver sa place, hein, c'est bien ça?
Oui, exactement. On a déjà notre dîner du jeudi qui est complet. La billetterie est en ligne. On vous invite à aller sur notre site lestablesdevic.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez toutes les informations sur les dîners, les chefs qui seront présents, les menus. Et on vous invite à vite vous dépêcher sur la billetterie parce que ça se remplit.
Merci beaucoup Virginie Dubertrand d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce rendez-vous gastronomique et populaire dans le nord du département des Hautes-Pyrénées. Je rappelle que vous êtes la responsable communication de ce festival Les Tablées de Vic.
Merci.
Et merci aussi à vous, Anne-Rose.
Moi, je sais ce que je fais du 25 au 28 juin prochain.
Mais il faut s'inscrire rapidement. Ouais,
je vais m'inscrire. Bon, dès que vous m'aurez libéré du studio, paf.
Voilà, je vous libère que si vous m'inscrivez également. Voilà.
Bah, écoutez, sortez la carte.
Bah, attendez, on va demander à Joseph, c'est le plus simple. Bien, merci Anne-Rose. Dans
merci
un instant, direction Lourdes avec l'office de tourisme de Lourdes et c'est Julie qui nous rejoint. Ça sera dans, allez, 3-4 minutes. Très bon appétit à vous qui nous écoutez.
Welcome to New York City, ladies and gentlemen. All right. All right. Start spreading the news. I'm living today. I wanna be a part of it.
Yeah.
New York, New York.
These vagabond shoes, they're longing to stray right through the very heart of it. New York, New York.
I wanna wake up in a city that never sleeps. I'm fine, I'm king of the hill, top of the hill. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it.
À Souillac, 104.8.
Comme on respire, mamie parle du temps. C'est pas si pire ce grand soleil, ce petit vent. Comme on respire, mamie nous fait la météo. N'a rien à dire mais nous prévient s'il fait trop chaud. Quand on se fâche, mamie surveille et surtout guette. Le cours des nuages, elle aurait pu être thermomètre. Quand ça s'engueule, mamie évite et fuit l'outrage. Débarrasse-elle et s'en va plus loin de l'orage. Elle prend pas part, mamie, elle dit qu'elle comprend pas toutes ces histoires, même si ça anime les repas. Tu partiras, mamie, c'est de ton âge. Tu seras parmi les tiens au sein des nuages. Tu partiras, mamie, t'as bien raison. Loin de l'ennui, loin de la pluie, loin des saisons. Comme il est tard, mamie souligne, elle a raison. Qu'il fait bien noir et surtout froid pour la saison. Comme c'est marrant, mine de rien, mamie savoure. Tous les instants, mamie, elle connaît bien l'amour. Comme d'habitude, mamie sifflote un petit air. Finit sa flûte et se lève comme un courant d'air. Elle est légère, mamie, elle est comme le vent. Serre le dessert, elle fait la pluie et le beau temps. Elle prend papa, mamie, elle dit que c'est pas pour elle. Mais elle se marre, elle adore quand c'est le bordel. Tu partiras, mamie, c'est de ton âge. Et tu seras parmi les tiens au sein des nuages. Tu partiras, mamie, t'as bien raison. Loin de l'ennui, loin de la pluie, loin des saisons. Tu partiras, mamie, c'est de ton âge. Et tu seras parmi les tiens au sein des nuages. Tu partiras, mamie, t'as bien raison. Loin de l'ennui, loin de la pluie, loin des saisons.
Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Bonjour Julie.
Bonjour.
Travaille au sein de l'Office de tourisme de Lourdes. Aujourd'hui, on ne va pas partir en balade en pays de Lourdes, mais on va découvrir les coulisses de l'Office de tourisme de Lourdes avec vous et avec des questions qui reviennent très souvent. Vous avez fait un inventaire de ces questions qui peuvent être parfois amusantes.
Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est des questions qu'on nous pose très souvent. C'est un petit peu on va dire la particularité de Lourdes. Souvent, les visiteurs ne savent pas trop comment situer le lieu emblématique de Lourdes. Donc c'est vrai que souvent, on nous pose la question où est-ce qu'on va pour voir la cathédrale, où est-ce qu'on va pour les miracles même, ou pour visiter la grotte, mais souvent avec des idées derrière la tête qui sont pas forcément tout à fait justes. Donc c'est vrai que la surprise, enfin la première chose à Lourdes quand on explique, c'est de refaire un petit point en fait de vocabulaire tout simplement.
Alors la question en principe, pas la question qu'on vous demande, c'est où se trouve la grotte, certainement.
Exactement. Alors souvent, on nous pose la question pour la grotte, et avec l'idée de grottes comme les grottes de Bétaram ou le gouffre d'Esparos, vraiment des grottes importantes dans lesquelles on entre et qu'on va visiter, voilà, en barque, en petit train, enfin la totale. Mais pas du tout. En fait, la grotte des apparitions à Lourdes, dans le sanctuaire, c'est principalement un abri sous roche, donc c'est vraiment assez étroit. Ça ne va pas vraiment en profondeur, et c'est surtout le lieu qui emprunte de spiritualité. En fait, c'est surtout pour ça qu'on va le voir, pas vraiment pour les concrétions calcaires.
À Lourdes, on recherche souvent aussi la cathédrale.
Tout à fait. Alors la cathédrale, l'église, la basilique, l'église principale, on ne sait pas trop comment le situer. En fait, voilà, il faut savoir que le sanctuaire, déjà, les sanctuaires, souvent les gens nous posent la question des sanctuaires, mais c'est un lieu qui est au singulier tout simplement parce que ça désigne tout un espace. C'est toute une zone, c'est vraiment un domaine, le sanctuaire, dans lequel vont se retrouver plusieurs basiliques, plusieurs églises et monuments, des monuments aussi vraiment pratiques, comme par exemple le centre info et tout ce qui peut être utile au fonctionnement du sanctuaire, pas que des lieux de culte justement, mais vraiment on ne parle que d'un seul sanctuaire comme d'un grand domaine spirituel, dont le cœur justement est la grotte, dont le cœur est la grotte des apparitions.
Autre point que vous devez expliquer souvent, ce sont évidemment les piscines, ce lieu.
Tout à fait, les piscines. Là aussi, les piscines, le mot en lui-même va vous évoquer le grand bassin de natation, donc avec les lignes pour aller faire un petit crawl. Pas du tout. Les piscines au sanctuaire, ça se rapproche plus visuellement de grandes bains, de grandes cuves qui sont plutôt en pierre. C'est là aussi comme la grotte. Ça va être vraiment une démarche très spirituelle, vraiment empreinte de foi. On va aller se baigner dans les piscines, alors pas en maillot de bain non plus. On va vous donner, les bénévoles qui sont sur place vont vous donner un vêtement spécial. Et ça va être une immersion qui va être accompagnée de prières et vraiment d'un moment de recueillement. Donc très loin d'eau croulée.
Voilà pour un aperçu des questions qui sont récurrentes au sein de l'Office de tourisme de Lourdes. Là, on parle de ces questions en français, mais évidemment, c'est dans plusieurs langues que vous avez ces interrogations.
Tout à fait, tout à fait. Et en plus, c'est encore plus particulier parce que c'est vrai qu'en français, on peut avoir ces petites différences de vocabulaire, comme une basilique, une église. Finalement, une église, ça va désigner un lieu de culte en général. Donc une basilique peut être une église. Par contre, une basilique va être différente du fait qu'elle soit authentifiée, enfin qu'elle soit honorée par le pape. C'est pour ça qu'on appelle cela une basilique, parce qu'elle a une importance comme un lieu de pèlerinage ou dans la foi catholique. Vous allez avoir aussi la cathédrale, qui est un terme qui est souvent utilisé, mais qui va ne correspondre qu'au siège de l'évêque. Et en l'occurrence, à Lourdes, on ne l'a pas. Donc finalement, la cathédrale la plus proche, ça va être celle de Tarbes, la cathédrale Notre-Dame de la Cède, qui date du XIIe siècle, qui est magnifique aussi.
Dernière question qui revient assez souvent, évidemment, c'est l'eau de Lourdes.
Tout à fait. Alors, souvent, on nous demande l'eau bénite, où récupérer de l'eau bénite. Mais en fait, pas du tout. Elle n'est pas bénite d'office. C'est principalement une eau de source qui émerge donc de la grotte qu'a trouvée Bernadette au cours d'une apparition, le 25 février 1858. Et pour qu'elle soit bénie, cette eau, il va falloir l'intervention d'un prêtre ou d'un curé que vous pourrez croiser dans le sanctuaire et qui va, du coup, vous la bénir. Et selon les termes de Bernadette elle-même, il faut avoir la foi, il faut prier. Cette eau n'aurait pas de vertu sans la foi.
Et c'est sur ces belles paroles qu'on va conclure cette chronique. Voilà pour ces questions qui reviennent, questions récurrentes que vous avez régulièrement au sein de l'Office de tourisme de Lourdes. Un grand merci Julie, à la prochaine fois.
Merci beaucoup, bonne journée.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes. Radio Présence à Toulouse, 97.9.
présence sur le plateau du Larzac, 106.5.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Malgré des négociations sous l'égide des États-Unis, les combats se poursuivent dans le sud du Liban entre Israël et le Hezbollah.